Baal Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand une génération plus tard, le Maguide de Meseritch se trouva confronté à la même tâche, il se rendit au même endroit dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sassov eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les mystères de la prière, mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait et cela devrait suffire. » Effectivement, cela fut suffisant. Mais quand, une génération plus tard, et Rabbi Israël de Rijin dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis sur son fauteuil et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt, mais nous savons encore raconter l'histoire. Peut-être cela devrait suffire. » Et encore une fois, cela fut suffisant. Cette histoire qu'aimait à raconter Shmuel Yosef Agnon à Gershom Scholem, et que ce dernier rapporte à sa façon comme ultime enseignement de la Kabbale, dit beaucoup de la force du récit dans la tradition juive, au point que le grand maître, Rashi, suggère dans son premier commentaire sur la Torah que la création du monde se fit par un récit. Ces récits sont nombreux dès le début du livre de la Genèse et vont parcourir toute la Bible juive et tous les traités du Talmud et les nombreux tomes du Midrash et des commentaires. L'histoire du monde est en quelque sorte la somme des histoires successives que les hommes se racontent et se transmettent de génération en génération. Histoire si essentielle qu'elle délivre à ceux qui en font le récit et à ceux qui les écoutent cette capacité à expliquer et ordonner le monde, à dire les généalogies et les origines et à structurer une identité, conférant ainsi à ces hommes ce que Ricoeur a si justement appelé une identité narrative. Edith Bruder, bonjour.
Bonjour.
Edith Bruder, vous êtes historienne, anthropologue, chercheuse à la School of Oriental Studies de Londres, et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour réfléchir avec vous sur cette question de l'importance du récit, parce que vous y êtes particulièrement intéressée dans le cadre de vos recherches sur les communautés des Juifs noirs, que vous nous faites découvrir dans votre surprenant et absolument passionnant ouvrage intitulé « Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues ». Ces communautés que l'on trouve aussi bien en Afrique qu'en Amérique, avec des constructions identitaires très variées, s'appuient toutes sur des récits d'origine biblique et talmudique et autres légendes, mais qui ont plutôt trouvé leur vitalité et leur productivité à l'extérieur du monde juif. Ces histoires, fortement mythologiques, ont infiltré la religiosité africaine, ce sont vos termes, et ont nourri l'imaginaire africain et les constructions et reconstructions généalogiques de nombreuses sociétés locales. Mais pas seulement. Les histoires que vous retenez sont au nombre de trois, essentiellement, les amours de la reine de Saba et du roi Salomon, et de leur descendance, l'existence de 10 tribus perdues d'Israël et plusieurs mythes qui leur sont conjoints, et le texte biblique parlant de la généalogie de Ham, un des trois fils de Noé. Edith Bruder, nous allons voir ensemble qui sont ces Juifs noirs d'Afrique et comment se sont tissées ces histoires que l'on peut en quelque sorte considérer comme la véritable colonne vertébrale de l'identité de ces communautés. Edith Bruder.
En effet, il existe depuis les années 1980 un phénomène tout à fait surprenant de l'émergence de communautés juives africaines. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, et depuis cette époque-là, quelques communautés sur l'ensemble de l'Afrique, d'ouest en est et du nord au sud, et je parle de l'Afrique subsaharienne, ont autoproclamé une identité juive. Il est certain que ce phénomène surprenant, qui prend place au XXe siècle, a nécessité à mes yeux une étude, et une étude extrêmement transversale. À l'origine, qu'est-ce qui a bien pu faire que ces communautés, sans aucun contact avec le judaïsme depuis la nuit des temps, aient décidé, à une certaine époque, de s'identifier aux Juifs, aux Hébreux et aux Juifs? Et ceci à peu près tout au même moment. Alors, j'ai cherché à comprendre. Le mythe et les mythes sont le pivot de cette auto-identification est bien sûr le mythe des tribus perdues. Le mythe des tribus perdues a fonctionné, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, et je vais dire de façon très large depuis la nuit des temps. En Afrique, certes, à notre époque, mais bien avant, au Japon, en Chine, en Angleterre, en Amérique latine, les colonisateurs, notamment les colonisateurs, ont identifié les individus qu'ils rencontraient comme étant des descendants des tribus perdues.
Il faut rappeler pour les auditeurs le contenu de ce mythe. C'est nous sommes au 8e siècle avant notre ère. Le royaume de Salomon a été divisé à sa mort entre deux royaumes, le royaume du nord qu'on appelle Israël et le royaume du sud qu'on appelle Juda. Et ce royaume du nord a une capitale qui s'appelle Samarie et qui va être détruite en 732 avant notre ère. Et toutes les 10 tribus qui habitent ce royaume du nord vont être exilées. On ne sait pas exactement où, vous allez nous le dire. Et va produire ce mythe des tribus parce que le texte de la Bible est très clair. Ils ont été exilés en Assyrie. Ils ont été exilés au-delà du fleuve. Et à partir de cela, on ne sait plus rien, sauf que la prophétie d'Ézéchiel va dire qu'il y aura un temps où tous les exilés d'Israël, donc ces 10 tribus, vont revenir. Donc on suppose que entre le moment de leur exil et le moment de leur retour, ces tribus sont bien quelque part. Et ça a donné des rêveries, des fictions, des légendes. Et c'est sur ce mythe donc des 10 tribus perdues que s'appuient les colonisateurs dont vous venez de parler et ces tribus africaines dont on va parler maintenant.
Oui, vous pointez très exactement le moment où le mythe, les tribus ont basculé de l'histoire dans la légende. Là, je vais apporter une petite précision qui me paraît importante afin que ce ne soit pas équivoque. Un mythe est une fiction sublimée. C'est une fiction qui prend une dimension spirituelle et culturelle extrêmement importante pour un groupe. Donc, se rapporter à un mythe, et en particulier au mythe des tribus perdues, c'est se rapporter à une légende qui a pris une dimension extrêmement symbolique pour un groupe. Et ce point est important parce que à aucun moment les Juifs africains ne s'inventent une identité. Ils relient leur propre identité à un élément transcendantal qui leur permet de justifier de leur rapprochement au judaïsme.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 qui fait que tout à coup, un ensemble de groupes à travers le monde, et en particulier à travers l'ensemble de l'Afrique, ont été questionnés sur leur identité, se sont dit, voilà, peut-être nous sommes des descendants de ces tribus perdues.
Alors, la relation de certains groupes dans le monde aux tribus perdues est bien antérieure à 1980, puisque ce que je vous ai cité, la cordillère des Andes, les rencontres des Portugais avec des Indiens, tout cela, c'est bien antérieur.
Vous dites même que la couronne britannique se considérait comme héritier des tribus perdues, et j'aimais bien ce jeu de mots en anglais et en hébreu, « British ». On entend Brit-ish, c'est-à-dire l'alliance de l'homme. Vous dites même que au Japon, les empereurs se considéraient comme descendants de ces tribus perdues et les samouraïs aussi. Donc il y a effectivement une productivité, une prégnance du mythe à travers l'ensemble des civilisations. Mais en 1980, il y a un réveil dans l'Afrique proprement dite.
Voilà, oui, le mythe est bien une force active. Toujours en mouvement, très laborieuse, c'est Malinowski qui l'a dit. Et effectivement, on retrouve ce travail du mythe à l'œuvre au travers du temps. Alors, en 1980, que s'est-il passé? Il s'est passé l'alia des Éthiopiens, alors qu'on appelle Falacha, qui n'aime pas qu'on les appelle Falacha, mais Beta Israël, leur retour, qu'on peut dire, en Israël. Et là, avec leur retour, il y a eu une prise de conscience extrêmement forte et la naissance d'un concept qui n'existait pas, le concept de juif noire.
Alors comment ça s'est traduit dans ces groupes, dans ces communautés noires d'Afrique ?
Écoutez, comme une révélation. Comme une révélation, il semblerait que par rapport à des interférences ou des similarités, des similitudes, tout un tas d'éléments qui résonnent entre eux, entre l'Ancien Testament et la spiritualité africaine, il y a eu, au cours du temps et depuis l'évangélisation et l'accès des Africains à la Bible qui a été traduite dans les langues vernaculaires, disons qu'il y avait en germe une réflexion. Et puis, le départ d'Éthiopie des Bêta Israël a agi comme un levier extrêmement puissant. Nous, on pense qu'on a beaucoup de rapports avec les Hébreux. On trouve que l'Ancien Testament est beaucoup plus juste à nos yeux. La notion de justesse revient beaucoup dans le discours, est beaucoup plus juste que ce qui nous a été enseigné avec le Nouveau Testament. Ça résonne parfaitement en nous. Mais nous aussi, nous sommes comme eux. Et à partir de là...
Nous, les Africains.
Et notamment les Lamba d'Afrique du Sud, c'est à cette époque-là qu'a paru la première déclaration du professeur Matiba, qui a été jusqu'à sa mort le leader de la communauté des Lamba d'Afrique du Sud, sa première déclaration disant, eh bien, nous aussi, dans le Pretoria News, c'est-à-dire un journal important de Pretoria, où sa première déclaration affirme que eux aussi, comme les Éthiopiens, sont les descendants d'Abraham. Et là, leur tradition orale, qui était bien sûr bien antérieure, a commencé à être exprimée de telle manière qu'elle a pris cette couleur-là, elle a pris cette connotation-là, et elle s'est engagée dans ce processus de filiation, de retour. On ne peut pas dire de rejudéisation, puisqu'ils sont restés protestants. Mais protestants qui veulent absolument être reconnus comme ayant des ancêtres juifs.
Des ancêtres juifs, mais il y avait, vous le dites très bien dans votre livre, des pratiques particulièrement juives, c'est-à-dire par exemple la cacheroute, ils ne mélangent pas le lait et la viande, ils pratiquent la circoncision, bien sûr dans un syncrétisme parce qu'ils font aussi le baptême, mais il y a quand même quelque chose que l'on peut rapprocher réellement du judaïsme dans cette tradition orale. Alors là, on vient d'insister sur ce mythe des tribus perdues. Il y a un autre mythe qui est très fort et qui s'articule avec ce premier mythe, qui est le mythe de la descendance salomonique, c'est-à-dire le fruit des amours passionnés, selon à la fois le texte biblique et la légende plus tardive, entre Salomon et la reine de Saba, Edith Bruder.
En effet, là on revient à l'Éthiopie, la romance de Salomon et de la reine de Saba et fait partie de la geste du Kebranagast, la geste fondatrice de la dynastie éthiopienne. À partir, pour eux, ils descendent, mais ils sont descendants de Ménélique, donc des amours de Salomon et de la reine de Saba. Ménélique ayant été éduqué par des prêtres à la demande de Salomon dans la religion de Salomon. Donc, à partir du moment où ces Éthiopiens c'est l'ensemble de la dynastie éthiopienne, c'est l'ensemble du peuple éthiopien qui descend. À partir de ce moment-là, ce mythe-là a pris une autre ampleur, une autre dimension. Alors certains groupes, parce que les discours sont évolutifs, ils sont vivants, certains groupes ont dit dès le départ que même étaient des Éthiopiens qui étaient partis d'Éthiopie et qui avaient essaimé un petit peu partout en Afrique. D'autres n'ont pas dit que c'était des Éthiopiens, qu'ils descendaient en particulier, mais de marchands, vous voyez, de l'entourage de Salomon. On a identifié Ophir avec Sophala. Donc vous voyez, il y a eu tout un ensemble, un réseau de significations qui ont été attribuées à ce mythe, de manière à ce qu'il implique pas seulement l'Éthiopie, mais d'autres pays d'Afrique.
Et on avait reçu dans cette émission le professeur Bowersock à propos de son livre sur les Juifs d'Himyar. Les Juifs d'Himyar qui sont ce peuple entier du Yémen qui s'est converti au judaïsme, qui ont pu traverser la mer Rouge, se retrouver en Éthiopie et descendre le long des côtes pour se retrouver là où se trouvent aujourd'hui par exemple les Lamba en Afrique du Sud ou au-dessus de l'Afrique du Sud. Donc, comme vous le dites, cela constitue l'architecture mentale de leur identité.
Tout à fait, leur architecture mentale est une élaboration, et le substrat mythique est pluriel, il n'est pas univoque, il n'y a pas les tribus, point. Il y a les tribus, Salomon et la reine de Saba. La mythographie de l'Afrique également, jusqu'au Moyen-Âge, personne ne connaissait rien de l'Afrique. Il faut revenir à Homère et Hérodote pour avoir une vision de l'Afrique. Et cette vision de l'Afrique, elle est extrêmement manichéenne. Il y a les bons et les méchants. Les bons sont ceux qui sont civilisés, les bons Éthiopiens, cités comme tels par Hérodote. Et puis il y a les mauvais, ce sont ceux de l'Afrique noire. Bien sûr, ça donne vraiment envie de s'identifier et spontanément aux bons Éthiopiens. Donc vous voyez cette vision extrêmement binaire de l'Afrique qui a été transmise directement aux colonisateurs qui ont reconnu des groupes plus élevés anthropologiquement, c'est-à-dire plus évolués que d'autres et qui ont été identifiés directement et absolument par eux de façon formelle comme étant descendants des Hébreux. Donc tout cet ensemble de choses, ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié dans cette étude, c'est qu'elle est tellement transversale, c'est que les informations viennent de partout et finissent par former quelque chose d'extrêmement cohérent qui a amené à cette élaboration identitaire.
Alors, vous le signalez très bien, c'est-à-dire que, vous venez de le dire, c'est pas simplement la manière dont eux se sont perçus, mais la manière dont on les a amenés à se percevoir par les colonisateurs. Et vous dites aussi que ce mythe des tribus perdues était très pratique à travers l'histoire, parce que lorsqu'il y avait des colonisations à travers le monde, pas simplement en Afrique, dès qu'il y avait quelqu'un qu'on n'arrivait pas à identifier, on disait « Ah, ben ce sont les descendants des tribus perdues », ce qui a été le cas par exemple des Mongols lorsqu'ils ont envahi l'Europe. Il a été dit « Ce sont les tribus perdues », Edith Bruder.
Tout à fait. Lorsque les Mongols ont envahi l'Europe, faute de grille de lecture pour les identifier, ils ont été identifiés comme descendants des tribus perdues, et d'une manière plus systématique, à partir des premiers empires coloniaux, dès les premiers empires coloniaux, les identifications faites par les colonisateurs ont été toutes orientées dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a même des voyageurs qui ont identifié des groupes dans la cordillère des Andes, j'en parlais tout à l'heure, je l'ai cité, c'est très amusant, qui l'auraient accueilli, c'était un ou plusieurs selon les cas, en chantant le schéma Israël, ce qui est parfaitement impossible.
Edith Bruder, nous sommes en train d'entendre un chant de facture récente. C'est un groupe d'Ouganda qui s'appelle les Abba Yudaya Jews. Donc là, c'est vraiment, c'est pas le nom du groupe qui chante, hein, c'est vraiment le nom de cette communauté. Et Abu Yadaya, ça veut dire en l'Ouganda, la langue de Ouganda, ça veut dire peuple de Juda ou peuple d'Israël. Et donc, ce sont une communauté qui se fait partie de ces juifs noirs qui s'identifient aux descendants à la fois de Salomon, mais surtout descendants des 10 tribus, des 10 tribus perdues. Et on sent chez ces jeunes, vous avez terminé votre remarque précédente avant la musique par ces Indiens d'Amérique qui accueillent leurs visiteurs avec Shema Israël. Et ce que l'on vient d'entendre ici dans cette chanson, c'est justement le Shema Israël en langue l'Ouganda. Alors on sent chez ces jeunes non seulement un intérêt pour le judaïsme, mais une véritable passion. C'est vraiment, on les sent, on les voit, parce que on peut les voir sur Internet. Il y a une passion, il y a un engouement, il y a un engagement. Mais quelle est la nature exacte de cette passion, de cet engagement? Est-ce que c'est purement sentimental? Est-ce que c'est purement identitaire, justement, par rapport à tout ce que nous avons dit? Ou il y a peut-être quelque chose d'une recherche de spiritualité nouvelle, à vocation peut-être aussi politique, Edith Bruder?
Alors, il est vrai que les Abba Yudaya sont un cas unique, y compris aujourd'hui, ils sont tous uniques, mais les Abba Yudaya sont un cas de conversion collective au judaïsme sans avoir jamais eu le moindre contact avec le judaïsme ou un juif, jusqu'au jour où c'est arrivé. Je vais essayer de vous dire en deux mots de quoi il s'agit. À l'origine de la communauté des Abba Yudaya, il y a un grand guerrier qui s'appelle Kakungulu. Kakungulu a aidé les Britanniques et a été très déçu dans ses attentes. Il attendait une reconnaissance qui n'est pas venue. Il souhaitait être nommé Kabaka, c'est-à-dire roi. Il ne l'a pas été. Il a abandonné la guerre et il s'est concentré sur l'étude de l'Ancien Testament. Et là, bon, je vais vous passer toutes les étapes parce qu'elles sont assez longues. Il a décidé que l'Ancien Testament correspondait extrêmement bien à ce qu'il ressentait. Il a décidé d'être circoncis. Il a convaincu ses fils et ses disciples. Il a trouvé des disciples. Il a créé un temple qu'il a appelé Jewish Church, l'église juive. Et ça, c'était au 19e siècle. Au début du 20e, ils ont continué à progresser dans l'étude de l'Ancien Testament absolument seuls, en faisant un amalgame complet entre l'Ancien et le Nouveau et en pratiquant quelque chose de totalement hétéroclite. Jusqu'au jour où Kakungulu a rencontré à Mbale un commerçant juif du nom de Joseph qui l'a convaincu, qui a d'abord été extrêmement surpris, on peut l'imaginer. Et il l'a convaincu de les rejoindre pour 6 mois pour les enseigner. C'est ce que Joseph a fait. Il a donc passé 6 mois et là, il a cadré complètement les rites, les Abba Yudaya, puisque à un moment, c'est le nom que Kakungulu a donné, Muyudaya, je suis juif, donc c'est devenu le nom du groupe, ont complètement suivi les enseignements de Joseph. Il a commencé, Kakungulu, quand Joseph est parti, à traduire la Bible en l'Ouganda. Il n'a pas pu terminer, il est mort. Voilà. Là-dessus, ce groupe était constitué, il existait, il n'avait plus de vrai leader. Un autre leader s'est substitué. Ce groupe a connu des hauts et des bas extrêmement importants, des bas très très bas lors de l'existence les souffrances qui ont été infligées par Amin Dada. Ils ont quasiment disparu, mais il restait un noyau dur. Et ce noyau dur a rebondi en rencontrant un diplomate israélien de passage là-bas, à Riodède, qui les a aidés à se faire connaître. Ce que je veux dire, c'est que leur ténacité a été totale. Un village complet se convertissant au judaïsme, c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'une fois à San Nicandro dans les Pouilles entre les deux guerres. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'en 2002, des rabbins israéliens et américains se sont déplacés et ont converti. Donc, vous voyez, ce groupe-là ne parle pas trop des tribus, mais s'estime comme une des tribus. Vous voyez, c'est extrêmement, imagé. Et en même temps, ils ne disent pas « nous sommes descendants des tribus », mais ils se vivent comme étant descendants des tribus. Ce groupe a maintenant son rabbin, qui a été formé aux États-Unis. Les associations prosélytes ont énormément aidé cette communauté, tant sur le plan de l'hygiène que de l'éducation. C'est absolument fabuleux le chemin qu'ils ont fait. Donc, leur spiritualité est totalement engagée, et leur religiosité et leur identité, tout cela ne faisant qu'un, complètement, totalement engagé dans un judaïsme qu'ils ont réinventé.
Réinventé, mais qui rejoint aujourd'hui le judaïsme traditionnel, non seulement de la pratique, mais aussi de l'étude. C'est-à-dire que vous avez dit au début qu'ils étaient lecteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau. Aujourd'hui, ils ont aussi accès au Talmud, aux commentaires traditionnels. Donc, ils sont, juifs. Classique, si on peut dire, à part entière. Et est-ce que cette manière de lire maintenant les textes, donc le Talmud en particulier, leur donne une dimension critique dans leur lecture par rapport à la manière dont ils avaient envisagé leur identité de départ?
Ils sont très conscients qu'au départ, ils ont fonctionné dans cet esprit, mais sans en avoir les moyens et les éléments et les règles. Par contre, ils sont extrêmement studieux. C'est extraordinaire de voir le nombre de personnes qui est en mesure de lire l'hébreu, la façon dont les femmes s'impliquent dans toutes les tâches qui sont en rapport avec le respect des rituels. C'est un engagement total, mais ils ne renient en rien leur passé où ils ont bricolé leur identité juive au départ, mais dans un élan qui ne prête pas à discussion, je veux dire.
Et comment ils sont perçus par les autres communautés noires, non-juives, et les communautés noires, juives?
Alors, dans leur pays, au début, ils ont eu, bon, bien sûr, quelques frictions. Et puis, ça s'est vraiment arrangé au cours du temps. Ils sont respectés. Ils ont ouvert une école avec les aides, avec des subventions et des soutiens financiers américains notamment, dans lesquels ils reçoivent les enfants juifs, les enfants chrétiens, les enfants musulmans de la région, et où il n'y a aucune obligation d'assister aux cours spécifiques qui leur tiennent à cœur eux, c'est-à-dire que les enfants, c'est une école laïque, avec une spécificité qu'on peut choisir ou ne pas choisir. Donc ils sont appréciés, ils ont créé des plantations, ils ont de café, ils ont eu des contrats avec des consortiums américains. Donc si vous voulez, ils sont extrêmement dynamiques, ils ont eu des prix de musique aux États-Unis. Ils sont extrêmement épanouis et ce sont des leaders par rapport aux autres communautés, puisque eux ont un vrai rabbin formé, ce sont quasiment les seuls. Donc vous voyez par exemple, la communauté du Ghana va se former, le leader Joseph du Ghana va se former en Ouganda.
Et ce sont des communautés, cette communauté que vous avez rencontrée personnellement?
Au Ghana, je suis allée il n'y a même pas très longtemps et Joseph était en formation.
Alors vraiment, Edith Bruder, c'est absolument passionnant. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. J'aurai le plaisir de vous réinviter pour que nous continuions cette conversation autour des autres communautés de juifs noirs, où vous nous expliquerez aussi, on reprendra cette question du mythe d'identité, et aussi le voyage permanent dialectique entre ces juifs d'Afrique et les juifs et les juifs noirs d'Amérique, parce qu'il y a aussi un va-et-vient identitaire de ces histoires, de ces légendes, et Je pense que cela sera absolument important de continuer cette conversation. En attendant, je rappelle le titre de votre livre, absolument, mais vraiment absolument passionnant, qui se lit comme un roman, et cette formule n'est pas un tic de langage. Parce qu'on peut me dire, oui, mais non, ça se lit vraiment comme un roman. Il y a des intrigues, du suspense, des rebondissements. Et c'est aussi un livre d'études, puisqu'on vous donnez toutes les sources auxquelles on peut se référer. Donc le titre de votre livre, Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues, paru en septembre dernier aux éditions Albin Michel. Merci encore.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son, Philippe Palares, réalisation d'Anny Journeau. Vous réécoutez et podcastez l'émission et vous retrouvez toutes les références sur le site Talmudique de France Culture, Koltouv, Leitraot. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.